le point de vue sensible et le point de vue génétique, le point de vue de l'instinct sexuel. C'est une distinction qu'il faut essayer de comprendre, parce que la distinction du sensible est liée à l'individu et le point de vue de l'instinct sexuel est lié à l'espèce. Alors, il est bien évident que l'espèce n'existe que dans l'individu. C'est en ça qu'il ne faut pas séparer. L'espèce ne peut exister que dans l'individu. Et donc, nécessairement, l'instinct sexuel est lié à la sensibilité. Mais l'instinct sexuel n'est pas la sensibilité. La sensibilité est autre chose. La sensibilité, c'est l'individu. Et l'instinct sexuel, c'est l'espèce. C'est la procréation. Et sans doute la question ultime en théologie naturelle et que vous avez commencé à traiter, pourquoi dans la sagesse de Dieu l'homme fut-il créé corps et esprit? Et donc pourquoi la vie et pourquoi l'univers? Vous avez annoncé la réponse ultime. Alors, dans la sagesse de Dieu, cause de l'amour et par amour. Et vous avez exposé la première étape de la démonstration, première étape, sans la matière, la vie ne pourrait se communiquer. Dans un regard de sagesse, l'existence de l'univers inanimé est justifiée par la vie. La vie elle-même, par ailleurs, proclame la gloire de Dieu comme Père. Deuxième étape, on doit maintenant se poser la question, pourquoi faut-il que l'homme soit un vivant soumis au devenir du vivant? Et par ailleurs, quel sens a la vie de l'homme, sa liberté, ses luttes dans un regard de sagesse? Ça, on le verra après, la liberté. Enfin, pourquoi l'homme a-t-il une destinée éternelle? Apprenons-nous au terme quelque chose de plus sur Dieu. Si la démonstration est complète, elle reflète merveilleusement l'ordre grandiose de la sagesse divine. Y a-t-il moyen de compléter cette démonstration? Très bien, très bien. Je lis les autres questions, si vous voulez, puis nous allons revenir, parce que je pensais y revenir, du reste. On m'avait posé aussi une question là-dessus, et c'est bon d'y revenir. Pourquoi ne peut-on pas dire que Dieu crée la vie? Est-ce que c'est que la création implique la conservation actuelle, comme la création de notre être implique que Dieu nous conserve actuellement dans l'être? Mais que c'est nous, par le per se movere, qui nous maintenons nous-mêmes en vie. Non, c'est parce que le vivant comme tel, qui implique le se movere, ne peut pas être premièrement dépendant d'un autre. C'est le raisonnement de Feuerbach. Et tout l'athéisme contemporain repose là-dessus. Et c'est pour ça que c'est si intéressant et c'est si important. Je ne l'ai pas vu au point de vue théologie. On pourrait le compléter dans une vision de sagesse. Bon, ce qui est créé, être créé, qu'est-ce que ça veut dire? Être créé égale SC participé. Tout le monde est d'accord là-dessus. SC participé. Or, SC participé égale être créé. Abandon. Don égale dépendant. Radicalement d'un autre. Vous êtes bien d'accord? Être vivant égale se mouvoir. Donc, c'est ne pas dépendre d'un autre. sûr. L'automobile. Ne pas dépendre d'un autre, se voir. C'est en premier lieu, être indépendant. Ça, c'est le vivant. Regardez le gosse, c'est très net. Hein, un petit gosse qui commence à faire l'expérience d'être vivant, il n'aime pas d'être dépendant, c'est d'être indépendant. Le vivant, c'est celui qui se veut. Donc c'est celui qui est indépendant, qui n'est pas abandonné. Vous voyez, c'est ça qu'il faut saisir. Hein. Alors, si je fais la confusion de l'être et du vivant, si je ramène l'être au vivant, je dirais être créé, c'est contradictoire au vivant. Donc, je suis un vivant, je ne suis donc pas créé. J'ai mon autonomie. L'autonomie, être indépendant, c'est l'autonomie. L'autonomie est première. Si je ne fais pas donc la distinction entre être créé et être vivant, si je confonds et je ramène être créé et être vivant, donc l'être et la vie, parce qu'en définitive, c'est l'être et la vie, si je confonds les deux, le point de vue de la création devient impossible. Il ne peut plus y avoir des êtres vivants. Or, j'ai conscience d'être un être vivant. C'est bien évident que j'ai conscience d'être un être vivant. Donc, de me voir, si j'ai cette conscience, je ne peux pas être créé. Mais ce raisonnement qui est très très simple et qui est à la racine de tous les athéismes. Ça, c'est la racine de tous les... C'est Feuerbach. C'est la racine de tous les athées. Si vous essayez... Si vous confondez l'être et la vie... Or, on confond l'être et la vie dans une position néo-platonicienne et dans l'ontologisme. C'est en ce sens-là que l'athéisme s'oppose aux ontologismes. Ce sont des anti-ontologismes. Il y a confusion entre l'être et la vie. Vous ne pouvez pas vous en tirer. Donc, il faut reprendre la distinction être et vie et comprendre que c'est l'être qui est créé. L'être, vous n'en avez pas conscience. Vous touchez votre être, vous n'avez pas conscience de votre être. Vous avez conscience de votre vie. La conscience apparaît avec la vie. Elle n'apparaît pas avec l'être. Alors si vous distinguez être, vous pouvez dire que l'être peut être créé. Et il dépend directement de Dieu. Tandis qu'être vivant, c'est quelque chose de second. C'est pour ça que je dis, l'être vivant comme tel n'est pas créé. Deuxièmement, l'être vivant présuppose être. Quand je dis être vivant, ça présuppose être. La vie, c'est une modalité particulière de l'être. Donc, il y a quelque chose d'antérieur à la vie. C'est ce qui est. Il peut y avoir des êtres qui ne vivent pas, tandis qu'il n'y a jamais des vivants qui n'existent pas. On n'a pas encore vu ça. Donc la vie est quelque chose de second. Or, la création regarde ce qu'il y a de premier. Donc c'est l'être qui est participé, ce n'est pas la vie au sens absolu. Et c'est en ce sens-là que nous devons maintenir, et je crois ça très important, de maintenir la distinction entre le point de vue de la création qui regarde le point de vue de l'être et le point de vue du sémovere. Ce qui nous permet aussi de comprendre que l'évolution qui est au niveau de la vie, si évolution existe, et dans la mesure où elle existe, l'évolution est au niveau du vivant et pas au niveau de l'être. Et donc l'évolution ne me pose aucun problème pour la création. Je dis ça, c'est parce que des quantités de théologiens disent « à cause de l'évolution et du problème de l'évolution, ne parlons plus de la création. Ben » ça, c'est une confusion entre être et vie. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Le problème de l'évolution n'est pas au problème de l'être. Je veux dire, le problème de l'épuration n'est pas au niveau de l'être, il est au niveau du vivant. Et il faut même préciser, il est au niveau du vivant biologique. Vous vous souvenez la réaction violente d'un Rostand contre le père Théard? C'était cela. En disant, Théard est peut-être un grand théologien, mais il fait une grave erreur en tant que savant, c'est qu'il oublie que l'évolution est au niveau de la vie biologique. Je ne peux pas parler de l'évolution au niveau de l'être, et je ne peux pas parler de l'évolution à un autre niveau que la vie biologique. Ce qui est très juste. C'était une réaction saine. Et c'est vrai, l'évolution, elle est née au niveau de la vie biologique. En dehors de la vie biologique, il faut se poser la question. Y a-t-il une évolution de l'esprit? Peut-on parler d'évolution d'esprit? On en parle couramment, on dit « Saint Thomas a évolué ». Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites ça? Ça veut dire tout simplement « il a approfondi ». Nous évoluons tous. C'était le cardinal Baudrillard qui disait ça, n'est-ce pas? Parce qu'il avait opposé, il avait des positions différentes au moment de la guerre de 14 et la guerre de 40. Alors on disait des positions tout à fait « alors, acceptez que j'évolue ». Tout simplement, c'était le point de vue d'une évolution consciente et organisée. Donc, alors, à ce moment-là, comprenez la différence qui existe entre l'être et la vie, et que le problème de la création regarde le point de vue de l'être et pas le point de vue directement de la vie. Alors, comprenons bien, Dieu crée des êtres vivants. Oui, il crée des êtres qui sont vivants. Y a-t-il, pour le point de vue de la vie, une intervention immédiate de Dieu? Ça, c'est un très gros problème. Je crois, oui, parce que le passage du monde physique au monde vivant, est-ce qu'il implique nécessairement une intervention nouvelle de Dieu? Vous voyez? Des néo-scolastiques que saint Thomas a repris, que Aristote lui-même accepte. C'est une distinction fondamentale. Alors, le passage de l'être vivant à l'être spirituel implique nécessairement une intervention de Dieu. Ce que nous allons voir. Non, ici, nécessairement une intervention de Dieu. Le passage de l'être physique à l'être vivant implique-t-il nécessairement une intervention de Dieu? C'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat. Parce que d'une certaine manière, la matière peut impliquer un appel à l'aspect vivant. Virtuellement. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a une intervention de Dieu? C'est très très délicat. Il ne faut pas aller trop vite pour l'affirmer. Mais c'est une question théologique de sagesse, du jugement de sagesse. Et c'est une question qu'on devrait se poser. Ça fait partie de ces questions, vous voyez, qui ne sont pas, qu'on ne s'est pas posées encore, mais qui sont à poser. Et ce sont des questions qu'on vous posera, cela. Pas du tout des questions lointaines, c'est des questions tout à fait actuelles. Est-ce que le passage de l'être physique à l'être vivant implique nécessairement une intervention de Dieu? Ou est-ce que ça n'implique pas? Est-ce que le passage de l'être vivant à l'être spirituel implique nécessairement une intervention de Dieu? Alors ici, je dis oui, d'une façon absolue. Ici, je crois que oui. Il faudrait l'établir d'une façon très précise. dans la mesure même où la vie, quand je dis intervention de Dieu, je ne veux pas dire nécessairement création nouvelle. Ça veut dire une intervention de Dieu dans l'ordre de la conservation du monde physique. Dieu garde ce qu'il a créé. La conservation, ça fait partie du gouvernement de Dieu. Alors, est-ce que dans le gouvernement de Dieu, y a-t-il une intervention nouvelle, immédiate de Dieu, comme dans un miracle? Dans un miracle, il y a intervention directe de Dieu. Et ça, je peux le dire, au point de vue philosophique, Dieu peut intervenir directement, puisqu'il est le créateur. Alors, ce n'est pas une nouvelle création, c'est une intervention nouvelle de Dieu. Autrement, c'est en contradiction avec ce que je vous dis ici. Hein. Dieu ne crée pas la vie, il communique la vie. Et il communique la vie comme Père. Alors, cette communication de la vie comme Père, je crois, implique une intervention nouvelle du gouvernement de Dieu. Pas du Dieu, pas de la création. Du gouvernement de Dieu, donc, distinguons bien. Tandis que lorsqu'il s'agit du passage de l'être vivant à l'être spirituel, il y a intervention du Créateur comme Créateur. Et pas seulement du gouvernement, du Père. Vous voyez ? Donc là, il y a un problème intéressant, délicat, qui repose sur le fait que je dis que Dieu ne crée pas la vie. Qu'il crée des êtres vivants. Il crée des êtres vivants. Il communique la vie comme Père. Une fois que j'ai compris cela, je peux dire que la vie implique, quand la vie apparaît de nouveau, implique une intervention immédiate de Dieu comme Père, mais pas comme Créateur. C'est-à-dire comme celui qui garde son œuvre physique, pour faire qu'à partir de cette œuvre physique, il y ait quelque chose de nouveau qui est un vivant. Mais lorsqu'il s'agit du passage du vivant à l'être spirituel, il y a intervention directe du Dieu créateur. Avant de poursuivre notre recherche sur l'évolutionnisme, comment peut-on, dans un jugement de sagesse, comprendre le pourquoi du lien que le Créateur est source première de toute vie a voulu entre la fécondité et le plaisir sensible, au point que l'homme fasse si souvent passer le désir de jouissance devant l'appétit fondamental de procréation qui est en lui. C'est un problème important, alors qui est déjà le point de vue moral, ça c'est déjà un peu plus dernier. Hein. Vous voyez ? Pas un problème directement, c'est un problème intéressant. Alors, on va continuer, je ne le traite pas. Si je ne le traite pas maintenant, rappelez-le-moi. Je vais garder le petit papier, bon, comme vous me rappelez. On va continuer, si vous voulez, à essayer de comprendre. Je vais d'abord revenir sur l'évolution, continuer sur le point de vue de l'évolution, mais il y a un problème, peut-être, qui est très important aussi à voir et qu'on m'a posé, et qui touche tous ces problèmes-là. Quand j'ai parlé que Dieu liait l'esprit et la matière, hein, donc le grand problème, j'ai dit que c'était avant tout pour le problème de la fécondité. La vie liée à la matière, la vie créée ou la vie provenant de Dieu, provenant du Père, puisque la vie créée, c'est pas tout à fait juste. La vie provenant de Dieu, liée à la matière, peut être féconde. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle Dieu lie l'esprit et la matière? Je crois que nous pouvons ajouter une autre raison, qui va plus loin, qui est encore plus radicale. La fécondité est liée à l'amour. Alors, puis-je dire que Dieu lie l'esprit et la matière pour communiquer plus d'amour? Pas seulement la fécondité, mais la racine même de la fécondité. Vous voyez, les deux questions se tiennent, puisque la fécondité, c'est la plénitude de l'amour. C'est la plénitude de la vie. Seul l'être parfait peut être source de vie. Donc, est-ce que je pourrais dire, au point de vue de l'homme, que Dieu communique, Dieu a voulu le lien entre l'esprit et la matière, donc l'esprit et le corps, pour pouvoir communiquer à l'homme plus d'amour? Alors ça, je crois que nous devons le dire dans une vision de sagesse. Vous comprenez que Dieu a uni l'esprit et le corps, non pas à cause de l'intelligence. C'est un conditionnement terrible pour notre vie intellectuelle d'être lié à notre corps. Ça exige notre intelligence d'être dans un état de mendicité et d'humilité et de pauvreté. Disons de pauvreté plutôt que d'humilité. Un état de mendicité et de pauvreté. Mon intelligence est obligée de mendier par l'expérience le progrès qu'elle peut faire comme intelligence. Or, être en dépendance des sens et des sensations, être en dépendance de l'imagination, ce n'est pas très drôle pour l'intelligence comme intelligence. Donc je peux dire tout de suite que Dieu n'a pas lié l'esprit et le corps à cause de l'intelligence. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'essaie toujours de m'évader. Et c'est pour ça que l'idéalisme est si séduisant. Pouvoir dire que je n'ai pas besoin de mes sens pour progresser intellectuellement, c'est m'évader de cet état de pauvreté, de mendicité dans lequel je me trouve par rapport aux sensations. Ce serait tellement plus noble. Vous voyez, la noblesse des mathématiques, ça vient de là, la noblesse des mathématiques. Tellement agréable d'être un matheux. Les sensations, je m'enferme et je réfléchis et je veux découvrir tout. C'est tellement être agréable d'être hégélien. Je m'enferme dans ma réflexion et ma méditation, je n'ai besoin de rien. Tandis que si je suis réaliste, je suis dépendant des sensations. Je suis dépendant de l'univers dans lequel je suis. Et je sais que je ne peux progresser que par l'expérience. Et donc je suis mendiant. Et l'intelligence est dans un état de mendicité. C'est pas drôle pour l'intelligence d'être dans un état de mendicité. Elle n'aime pas beaucoup ça, parce que sa noblesse n'aime pas d'être revêtue de l'habit du mendiant. Ce vieux noble qui n'est réduit à être avec l'habit du mendiant. C'est très triste, la noblesse de l'intelligence est dans un état vraiment démocratique, hein, de la sensation. Elle est obligée d'être mendiante de toutes les réalités sensibles de notre monde physique. Alors, c'est donc à cause de l'amour que l'esprit est lié au corps. Oui, c'est pour que l'amour puisse aller plus loin. Pour que notre volonté puisse aimer plus, aimer mieux. Ça, c'est le point de vue très délicat et très important. Vous voyez, c'est toute une anthropologie qui est là en cause. C'est toute une vision sur le lien entre le corps et l'âme. Et je crois qu'il faut bien affirmer que ce n'est pas pour le développement de l'intelligence. Et c'est pour le développement du cœur. C'est le développement de la volonté, notre capacité d'aimer. Alors, essayons de saisir ça. Autrement, si ce n'est pas pour l'amour, vous comprenez bien, alors ce ne serait que pour la fécondité. Donc ce ne serait qu'au niveau de l'espèce. et ce ne serait pas pour la personne. Alors à ce moment-là, ce serait terrible, ce serait ramener l'homme au niveau de l'animal. Il serait finalisé à cause de son corps, il serait finalisé par la procréation. Si c'est à cause de ça, j'ai dit grâce au corps, il peut y avoir la fécondité, c'est très vrai. Mais la fécondité humaine implique l'amitié. Et l'amitié a sa finalité au-delà de la fécondité. La fécondité ne finalise pas tout amour humain. La fécondité finalise un certain amour humain. Mais l'amour humain dépasse le point de vue de la fécondité. Il va plus loin que le point de vue de la fécondité. Puisque l'amour humain, c'est l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié fait comprendre la grandeur du mariage. Et ce n'est pas le mariage qui fait comprendre la grandeur de l'amour d'amitié. Et donc, la personne humaine est finalisée par l'amour d'amitié, mais pas par la fécondité. Comme personne humaine, je peux philosophiquement aller jusque-là, et je dois philosophiquement aller jusque-là. Autrement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, si je comprends que la personne humaine implique le point de vue de l'esprit et du corps, il faut essayer de saisir comment le lien de l'esprit au corps, c'est pour que l'amour humain puisse atteindre l'amour d'amitié. Et donc, être plus parfait. Si je n'étais qu'esprit, il n'y aurait pas d'amour d'amitié. Si les anges existent, au point de vue philosophique, si les anges existent, ont-ils la possibilité d'un amour d'amitié? C'est une très belle question, ça. Si les anges existent, ont-ils possibilité d'un amour d'amitié? Les anges n'ont pas de fécondité. Nous l'avons dit, il n'y a pas de famille angélique. Gabriel ne peut pas être chauffeur de taxi, n'est-ce pas? Il ne peut pas, c'est impossible, parce qu'il ne peut pas l'être. Il ne peut pas y avoir d'amitié, de famille dans les anges, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de famille. Peut-il y avoir des amitiés? Est-ce que Gabriel et Raphaël peuvent être des amis? Au point de vue purement naturel, hein? Si les anges existent, point de vue philosophique, je dis non. Il n'y a pas d'amitié chez les anges. L'amitié est un problème proprement humain. C'est assez extraordinaire du reste. Il peut y avoir entre les anges des rapports respectueux. Ah, ils se respectent très très bien. C'est des aristocrates très respectueux les uns des autres. Et merveilleusement respectueux. C'est un sens merveilleux, c'est un sens extraordinaire de l'aristocratie. Il n'y a que les anges dans ce sens-là. Mais ils se respectent. Ils sont chacun monolithes. Et ils se regardent. À partir de Dieu, dans le respect de Dieu. Mais il n'y a pas d'amour d'amitié. Le fondement de l'amour d'amitié, c'est qu'il y a une koinonia, une communication qui se fait entre hommes. Parce qu'ils sont une similitude. Ils ont la même espèce. Ils ont la même nature. Ils sont des individus et des personnes distinctes ayant même nature. Ceci, c'est grâce à la matière. C'est grâce à la matière qu'ils ont cette communion spécifique, naturelle. C'est grâce à la matière. Et donc, grâce à la matière, il y a l'amitié. Et c'est à cause de cela que Dieu unit l'esprit et la matière. C'est pour qu'il puisse y avoir l'amitié. Et pas seulement la fécondité. Avant la fécondité, l'amitié. Alors, comprenons que grâce à la matière, grâce au corps, l'amour pourra se développer d'une manière plus parfaite, pourra se manifester et se dire d'une manière plus parfaite, s'exprimer d'une manière plus parfaite, et permettre une communication dans l'ordre de l'amour qui va plus loin que s'il y avait deux esprits distincts les uns des autres. Évidemment, il y a le danger terrible, alors nous retrouvons, il y a le danger terrible de s'arrêter à la communication sensible et de faire que l'amitié se perde dans la passion. C'est le danger. Mais en même temps, il faut comprendre que ce danger est la possibilité d'un amour plus grand. Oui, c'est le grand risque de la passion, ou c'est le beau risque de la passion, si vous voulez. Grâce à l'amour sensible et passionnel, les êtres humains peuvent s'aimer d'un amour d'amitié, peuvent connaître cette communication profonde. Grâce à la passion, grâce au sensible, à l'expression sensible et à la passion. Mais il faut que l'expression sensible et la passion soient dépassées par l'amour spirituel qui se nourrit toujours de la passion, mais en la dépassant, pour qu'il puisse y avoir cette koinonia, cette communication, pour qu'il puisse y avoir cette unité dans la diversité de deux personnes qui se donne. Tout amour implique un don. Et quand il s'agit de l'homme, parce qu'ils ont même nature, le don peut prendre une modalité particulière qui est un don substantiel. C'est ça qui est assez extraordinaire. Pour qu'il y ait amour d'amitié, il faut un don substantiel, puisqu'il faut regarder l'ami comme un autre soi-même. Donc s'il n'y a pas un don substantiel, il n'y a pas d'amitié. Il faut que l'ami soit un autre nous-mêmes. Or, l'ami ne peut être un autre nous-mêmes que si, justement, il y a ce don substantiel qui fait qu'on se donne mutuellement en s'aimant, pour être plus pleinement soi-même. En aimant l'ami, on s'achève, on se finalise. Et donc on est plus nous-mêmes. Et on est plus soi-même grâce à ce don. C'est donc dans l'amour d'amitié qu'on se finalise en premier lieu, et cet amour d'amitié ne peut exister que grâce à l'aspect sensible et corporel. Vous voyez comment nous pouvons saisir que dans la sagesse de Dieu, si Dieu a voulu que l'esprit soit lié au corps, c'est pour que l'amour puisse aller plus loin dans sa communication, pour que l'homme puisse être source d'un don personnel et pas seulement dans le langage, dans le geste et dans la réalité profonde. Se donner soi-même dans ce qu'on a de plus intime et de plus profond. C'est bien ça, la communication amicale. c'est que on puisse s'aimer mutuellement, réciproquement, en se finalisant. Donc je crois que c'est la raison dernière, si vous voulez, hein, pourquoi Dieu, donc la raison de la sagesse, dans un regard de sagesse, pourquoi Dieu a-t-il uni l'esprit et le corps ? C'est pour que l'homme, non seulement soit source de vie nouvelle, mais plus profondément, soit capable de se donner. Soit capable d'un don personnel, substantiel, se donner à un autre. Et en se donnant à un autre, permettre à l'autre de se finaliser par lui-même. Se finaliser par l'ami. Oui. C'est une troisième raison. C'est évident. C'est une troisième raison, mais ce n'est pas la raison majeure. Vous voyez ? Parce que le travail est ordonné à l'amour. C'est pour que les amis puissent faire œuvre commune que le travail est nécessaire. Une communauté n'existe que quand il y a des travailleurs. S'il n'y a que des chômeurs, il n'y a plus de communauté. Une communauté n'existe que dans une coopération efficace. Donc le travail est nécessaire pour exprimer l'amour. Le travail est le travail liturgique. Parce que c'est la liturgie d'un travail. C'est évident. Si vous êtes chômeur, vous ne serez jamais un homme liturgique. Puisqu'il faut un travail dans la liturgie, dans une coopération. Alors le travail est nécessaire aussi, et ça permet aussi cette transformation de l'univers par l'homme. Mais ceci, c'est pour l'amitié qui touche la raison. Vous voyez, on pourrait dire ceci, si vous voulez, si on essaie de comprendre successivement ces raisons pour laquelle Dieu unit l'esprit et la matière. Et c'est vrai que c'est le point de vue ultime du regard du sagesse. C'est premièrement un amour d'amitié. Donc le don substantiel. Comprendre que dans l'amour d'amitié, il y a un don substantiel. Et ce don substantiel ne peut se faire que grâce au corps. Ça serait très intéressant à bien écouter. Je ne peux me donner que si à la fois vous ne pouvez pas donner votre être, vous pouvez donner que votre avoir. C'est la grandeur de l'avoir relative à l'être. Or, notre corps est un avoir substantiel. Ça, c'est sûr. C'est un avoir substantiel. Grâce au corps, je suis capable de me donner. Si je n'étais qu'esprit, je ne pourrais pas me donner. Grâce au corps, je peux me donner. Comprenons bien. Quand je dis le don du corps, c'est pour ça qu'il faut bien être très attentif. Quand on dit le don du corps, il est réservé à l'amour conjugal de l'époux et de l'épouse. C'est vrai, c'est pas entièrement vrai. Il y a diverses manières de se donner. Donner le don de son corps, c'est quoi ? C'est notre sensibilité. Or, notre sensibilité est plus que notre sexualité. C'est plus. La sensibilité, elle est liée directement au corps et à l'individu en tant qu'il est une personne. La sexualité est liée à l'individu et à la personne en tant qu'il est représentant de la nature, de l'espèce. Et donc le don du corps, hein, et ça c'est tellement important, ce serait tellement important dans notre monde d'aujourd'hui, hein, parce que vous savez bien, l'erreur terrible de Freud, c'est d'avoir confondu sensibilité et sexualité. Alors, le don du corps ne peut être qu'au niveau sexuel, pour Freud. Pour nous, non. le don du corps est, n'est pas le point de vue sexuel en premier lieu, il est le point de vue sensible. C'est le point de vue de la présence. La présence d'un être à un autre être. C'est deux êtres qui s'aident dans cette présence, en s'aimant. Et c'est donc quelque chose qui implique à la fois le point de vue spirituel, c'est bien évident, et le point de vue sensible. Mais une sensibilité qui n'est pas la sensibilité sexuelle, qui est la sensibilité de la personne. Vous voyez ? Alors, donc, le don substantiel, c'est le don du corps, puisque c'est la voix. Et le don du corps est lié à la sensibilité. En premier lieu, je ne définis pas le corps dans ce qu'il a de plus profond par le point de vue sexuel. Je définis le corps premièrement par le point de vue sensible. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est pour ça que le fait même de dépasser la sexualité augmente la sensibilité. C'est une des raisons, si vous voulez, pour laquelle le point de vue de la chasteté et le point de vue de la virginité va permettre des amitiés plus parfaites, des amitiés plus grandes, parce que le point de vue de la sensibilité est plus fort. La sexualité diminue la sensibilité. C'est très très curieux de voir ça. Parce que le capital de vie est limité. Alors si votre capital de vie va du côté de la sexualité, nécessairement la sensibilité est moins forte. Tandis qu'au contraire, si votre capital de vie est uniquement ordonné vers le point de vue d'une finalité personnelle, la sensibilité augmente. C'est pour ça que dans la vie religieuse, hein, une vie religieuse bien vécue, fait qu'au bout de quelques années, on est beaucoup plus sensible qu'au point de départ. Alors on a des capacités beaucoup plus grandes de souffrir, c'est bien évident, mais il y a des capacités beaucoup plus grandes d'amour et de joie. Ça c'est vrai que la vie religieuse et la vie contemplative augmentent la sensibilité. Oui, alors là je suis au point de vue surnaturel. Ici j'essaie au point de vue philosophique. Oui, parce que le point de vue surnaturel va amener le point de vue de la charité fraternelle. La charité fraternelle existe chez les anges. Les anges s'aiment d'un amour surnaturel. Mais leur amour surnaturel n'implique pas la grâce sacerdotale. Parce que c'est une justice originelle. Leur grâce est de justice originelle. Notre grâce est une grâce chrétienne qui est sacerdotale pour intensifier l'exigence de la charité fraternelle. La charité fraternelle, pour nous, s'enracine dans l'amitié. Tandis que la charité fraternelle, chez les anges, ne s'enracine pas dans l'amitié. C'est très curieux. Ce serait très intéressant. On va traiter de l'Église, vous voyez ? Traiter de l'Église pour voir ça. Parce que c'est quand même très important de comprendre cet enracinement profond au point de vue jugement de sagesse. De voir que le corps implique au point de vue de la sensibilité. Le corps, c'est un avoir. Et donc, il implique, et c'est un avoir substantiel. Le corps, c'est un avoir substantiel. C'est mon être. Mais c'est un avoir. C'est mon être, c'est pas mon être. Et donc, il y a une possibilité d'un don. La possibilité d'être relatif à un autre. Par le corps, je peux être relatif à un autre. Et par le corps, mon esprit devient relatif à un autre. Et donc, je peux aimer. Et je peux aimer de cette manière substantielle, c'est-à-dire me donner. Par là, je comprends, voyez, comment. Parce que mon intelligence, à cause de l'esprit lié au corps, et dans un état de mendicité. Par le fait même, l'amour pourra se développer plus et pourra être plus lui-même de cette manière substantielle dans l'amour d'amitié. Et donc on peut dire que c'est vraiment à cause de cet amour d'amitié que Dieu a voulu unir l'esprit et le corps. C'est vraiment à cause de cet amour d'amitié. Fécondité, donc j'ai dit d'abord la fécondité, j'ai dit d'abord l'amour d'amitié, deuxièmement fécondité, don du corps avec le point de vue de la sexualité, le point de vue du mariage en vue de la fécondité. Troisièmement, le travail. Voilà les trois raisons, si vous voulez. Mais vous voyez que le travail n'est pas une finalité au sens absolu. L'homme est capable, par le point de vue du corps, il a une main. Et grâce à la main, il travaille. Hein. Grâce à la main, il peut transformer l'univers. Il transforme l'univers. Alors, il y a le travail qui transforme l'univers. Et la transformation de l'univers, c'est lié pour que l'homme puisse être plus proche du Créateur. Je crois que ce sont les trois grandes raisons. Mais vous voyez tout de suite, mettez bien ça, hein, qu'au point de vue de l'intelligence comme telle, l'intelligence est mise en tutelle. Parce qu'elle est dépendante des sensations. Mon intelligence n'est plus une intelligence intuitive. Alors je peux pleurer indéfiniment sur le fait que mon intelligence n'est pas intuitive. Je pleure, alors que je devrais au contraire comprendre que si mon intelligence n'est pas intuitive, elle est dans un mode de mendicité pour que l'amour se développe. Et tant que je n'ai pas découvert que l'amour permet, que grâce à l'union de l'esprit au corps, l'amour peut se développer, je risque toujours de pleurer sur mon intelligence non intuitive. Et j'idéalise. Vous voyez ? L'idéalisme, c'est parce qu'on n'a pas compris le point de vue de l'amour d'amitié. Le jour où on comprend l'amour d'amitié, on ne peut plus être idéaliste. C'est impossible. Parce qu'on comprend que l'esprit est lié à la matière pour cet amour d'amitié, pour le bien des personnes. Alors réfléchissez là-dessus, c'est très important, et continuez de... ne pas hésiter, parce que nous cherchons ensemble ce qu'on représente, ce jugement de sagesse, et c'est très important de comprendre le pourquoi de ce lien de l'esprit et du corps. C'est ça qui donne en dernier lieu tout le fondement de l'éthique. Et ça justifie en jugement de sagesse pourquoi l'éthique se fonde sur l'amour d'amitié.